Les loups de Montfort par Marie Écart. Vers le milieu de janvier 1847, M. Ernest Simoneau, commis d'agent de change à Paris, eut le malheur de perdre à Montfort-sur-Meux un oncle dont il était l'héritier. L'oncle était un vieillard avare que le jeune commis n'avait jamais vu et dont la succession venait fort à propos. « Monsieur votre oncle, écrivait à Ernest, le notaire de Montfort chargé des affaires du défunt, vous laisse une jolie maison qui vaut bien 20 000 francs et une ferme estimée 40 000. Il y a ici un monsieur Rive, homme riche et qui désire se fixer dans notre ville. Monsieur Rive offre 65 000 francs de la ferme et de la maison. Je vous conseille de venir à Montfort pour régler cette affaire. Si vous prenez ce parti, j'espère que vous voudrez bien descendre chez moi. Si vous ne pouvez pas quitter Paris, veuillez me donner vos ordres. J'ai l'honneur, etc. Vergeot, notaire. » Monsieur Ernest mit un crêpe à son chapeau et partit pour le département d'Ille-et-Vilaine. Il ne connaissait pas Montfort. Il savait seulement que c'est une petite ville très ancienne, située au confluent du Meux et du Chailloux, et à peu près entourée par la forêt de Brésilien, fameuse dans les premiers siècles de notre histoire, et dont les romans de chevalerie racontent tant de merveilles. C'est dans la forêt de Brésilien que l'enchanteur Merlin a vécu 100 ans sous le servage de la fée Viviane. On y voit encore son tombeau. C'est là encore que se trouve la fontaine de Jouvence. Fille, connaît qui ne sont pas Jeannette, à qui cette eau de Jouvence viendrait bien à propos. Malheureusement, la fontaine est en ruine, et l'eau qui coule entre ces pierres disjointes n'a pas de vertu. La forêt de Brésilien était autrefois hantée par les démons, les sorciers, les sorcières. Elle était peuplée de dragons, de géants, et on y comptait par milliers les bêtes féroces. Aujourd'hui, on y trouve des loups, des renards et des beaux arbres séculaires. Les loups se font tuer par les chasseurs, les renards mangent les œufs et les jeunes couvées d'oisillons qu'ils peuvent surprendre, et les grands chênes font l'admiration des paysagistes. Ernest Simoneau descendit chez M. Vergeot, le notaire. Cet officier ministériel était un petit homme de 35 ans environ, leste, d'une taille bien prise, et dont les allures dégagées indiquaient plutôt le chasseur que le garde-note. Il aimait en effet beaucoup la chasse, et c'était là une passion qu'il partageait avec ses compatriotes. On n'est pas impunément le voisin de la forêt de Brésilien. Cependant le Parisien crut voir dans les yeux du notaire quelque chose d'égaré. Il crut lire sur son front soucieux une vive contrariété. Où M. Vergeot était d'une nature insociable et inquiète, où il se trouvait sous le coup d'un malheur récent. Ernest pensa que la venue d'un étranger était importune. « Monsieur, dit-il à son hôte, permettez que je me retire, j'arrive dans un moment fâcheux et... »« Très fâcheux, répondit avec naïveté le petit notaire. « Mais pour moi, mon cher client, votre venue me soulage. J'ai besoin d'épancher mon cœur, ajouta-t-il en serrant la main d'Ernest. « Est-ce que, dit celui-ci, vous avez découvert un nouveau testament qui me déshérite? Pas le moins du monde. Votre monsieur Rive ne veut-il plus acheter mon héritage? Au contraire, il en est plus féru que jamais, et je crois que nous pourrons en obtenir 70 000 francs, ce qui serait très bien vendre. Cela vous convient-il? Sans doute. Vous pouvez regarder l'affaire comme faite. » Il faisait très froid, la nuit commençait à venir. Le notaire et son client étaient dans un salon lambrissé de chêne et bien clos, un feu ardent brûlait dans la cheminée. M. Ernest, assis dans un bon fauteuil, examinait curieusement le notaire qui allait et venait dans le salon sans pouvoir demeurer en place. M. Vergeot était à 100 lieues d'un contrat de vente. Il s'arrêta enfin devant Ernest. « Tel que vous me voyez, lui dit-il, je suis amoureux, c'est-à-dire j'étais amoureux. Maintenant, pouah, jamais, jamais. » « Allons donc, mon cher notaire, vous renoncez aux amours. Vous connaissez les lupins ?» demanda le notaire, sans répondre à la question d'Ernest. « Pas du tout. C'était des amis de votre oncle. »« D'honnêtes gens, alors, » dit Ernest. « reprit le notaire. « Vous allez voir. Les lupins sont assez riches. Monsieur Lupin a été fort bel homme dans son temps, et je me souviens que, dans mon enfance, Madame Lupin passait pour la plus belle femme de Montfort. Ils ont une fille unique, Mademoiselle Sylvia Lupin, une grande fille à peu près de la taille de son père, qui, comme je vous l'ai dit, est un fort bel homme. Mademoiselle Sylvia a les cheveux blonds, les yeux bleus, le teint éclatant de blancheur, la démarche assurée et le port d'une reine. Enfin, monsieur, une druidesse.
Une druidesse ? S'écria Ernest.
Oui, monsieur. La ville de Montfort existait avant la conquête des Gaules. César ne put pas s'en emparer, ou peut-être l'épargna-t-il.
Un collège de druides se réfugiait dans la ville, et quelques-uns de nos concitoyens croient descendre de ces anciens prêtres de Teutathès. Les Lupins, surtout, ont cette prétention. Et ce nom de druidesse qu'on donne dans la ville à Mademoiselle Sylvia lui rappelle agréablement ses ancêtres. J'ai eu le malheur de l'aimer, monsieur. J'ai demandé sa main à son père, qui me l'a accordée, et notre mariage était arrêté. J'avais moi-même dressé le contrat.
Eh bien, monsieur, la druidesse n'a pas voulu devenir femme d'un notaire. Elle ne demandait pas mieux. C'est moi qui romps ce mariage. Je viens de l'écrire à monsieur Lupin. Arrivera ce qui pourra.
Ajouta M. Vergeot, encore ému de l'acte viril qu'il venait d'accomplir.
Et pourquoi cela ? Demanda Ernest avec plus de curiosité que de discrétion. Elle a un amant, monsieur. Elle a un amant. S'écria M. Vergeot en parcourant son salon d'un air désespéré.
Je vous félicite, monsieur, répondit Ernest, d'avoir fait cette découverte avant la noce. Il eût été pénible d'acquérir cette certitude après.
Un loup, monsieur, un loup ! Criait à tue-tête Vergeot. J'en tremble encore d'effroi. Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit.
Comment, un loup ?
Écoutez-moi. Les loups sont fort communs dans la forêt. Et monsieur le capitaine de louveterie a ordonné une battue générale. Le rendez-vous était à Montfort même. Je devais faire partie de cette expédition, mais j'étais retenu par un client. Les chasseurs sont partis sans moi. Je n'étais libre que 2 heures après leur départ. J'étais tout équipé, tout armé. Ma foi, me suis-je dit, allons faire un tour dans la forêt. Je peux les rejoindre. Ou tout au moins tuer un chevreuil et quelques perdreaux. Je pars avec mon chien Azor, qui en dirait de belle s'il pouvait parler. Je m'enfonce dans la forêt, je dépasse le tombeau de l'enchanteur Merlin, et au moment où j'allais abattre un superbe coq de bruyère, je vois venir à moi 2 loups d'une taille monstrueuse. Un loup et une louve, monsieur, comme la suite l'a prouvé. Azor, qui est un chien très courageux, est saisi d'une terreur inaccoutumée. Je n'avais que du petit plomb dans mon fusil. Je monte sur un arbre pour me donner le temps de couler une balle dans mon fusil et pour mûrir mon plan d'attaque. Le couple odieux a passé au pied de l'arbre, j'ai entendu des grognements, et à peine établi dans les branches, j'ai vu les 2 animaux féroces s'arrêter à 40 pas devant moi, s'asseoir et se dépouiller de leur peau.
« Se dépouiller de leur peau, des loups ? » s'écria Ernest.
« Monsieur, dit gravement Vergeot, l'enchanteur Merlin a fait des élèves. Ceux-ci en ont fait d'autres, et à l'heure où je vous parle, il y a à Montfort des sorciers très habiles et des sorcières très dangereuses.
Moi qui vous parle, monsieur.
J'ai connu un petit garçon qui se changeait en lézard quand il lui en prenait l'envie. C'était un de mes camarades d'école. » Ernest aurait volontiers pouffé de rire au nez du notaire, mais l'air convaincu de M. Vergeot lui en imposa malgré lui. Le jeune homme, échauffé par un voyage qui l'avait mis mal à l'aise, avait faim. Ses nerfs étaient irrités et fatigués. Enfin, l'obscurité qui commençait à régner dans le salon rendait M. Ernest accessible aux impressions les plus étranges. Il ne se permit donc pas d'interrompre le notaire qui continua. « Le loup, dit-il, eut l'air de se secouer, et tandis que sa pelure tombait sur le gazon flétri, je vis d'abord surgir des cheveux noirs et bouclés, puis la figure d'un fort joli homme, enfin des bras terminés par 2 mains blanches avec lesquelles il entoura la taille de...
« De la louve !»
demanda Ernest avec une certaine anxiété. « Hélas !» répondit Vergeot. « La louve, c'était Mademoiselle Sylvia Lupin, ma fiancée. » qui, par la force de ses sortilèges, redevint femme auprès de son amant. J'ai vu ses cheveux blonds, son cou blanc, qui se dégageait de ses belles épaules. Sa peau de louve était par terre à côté de la fourrure de son amant. Ils se regardaient amoureusement, ils se prirent les mains. Je crus voir qu'ils échangeaient des serments d'amour. L'amour de 2 bêtes carnassières. Je n'y pus plus tenir, je lâchai mon coup de fusil. À peine la fumée qui m'entoura fut-elle dissipée, je vis le loup bondir. Mademoiselle Sylvia se revêtit de sa peau et redevint louve. Je descendis de mon arbre pour les poursuivre. Ils furent plus lestes que moi. Ils passèrent à mes pieds. La louve qui me lança un coup de dent emporta un peu de ma veste et tous 2 mordirent cruellement Azor, puis se perdirent dans la forêt. Je rentrai chez moi, éperdu, épuisé.
Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et ce matin, j'ai rendu sa parole à M. Lupin le père, sans parler de ce que j'ai vu hier, car les sorciers sont redoutables et il ne faut pas les irriter. » En parlant ainsi, Vergeot prit sur un meuble une veste de chasse de velours à laquelle il manquait, en effet, un morceau, et il ouvrit la porte de son salon pour appeler Azor. Le malheureux entra en boitant. Il était mordu en trois endroits. Au même instant, on entendit des fanfares dans la rue. C'était M. le capitaine de louveterie qui revenait après une chasse fructueuse et qui escortait avec ses chasseurs une charrette chargée de 7 à 8 loups, heureusement mis à mort. « Voilà mes camarades, » dit Vergeot, et il ouvrit la fenêtre. La charrette passait précisément devant la porte du notaire, entourée d'une partie de la population. Des paysans portaient des torches et poussaient des hurrahs de joie. On y voyait clair comme en plein midi. Tout à coup, un des loups, apparemment mal tué, cet animal à la vie dure, se lève en chancelant sur ses quatre pattes, ouvre une large gueule, pousse un dernier cri, un cri d'agonie, et retombe mort. « La voilà !» s'écria Vergeot. « La voyez-vous ? » ?»« La louve ? » ?»« C'est mademoiselle Sylvia Lupin. Regardez le poil fauve qui est sur sa tête. Ce sont les cheveux blonds de ma fiancée. Voyez ses yeux bleus. Ils ont l'air de se tourner sur moi. » Ernest n'était pas convaincu, mais il était vivement impressionné. La conviction est d'ailleurs contagieuse et le notaire ne doutait pas de ce qu'il disait. Il n'y avait qu'à le voir pour se convaincre de sa bonne foi. Pâle, les yeux égarés, les mains tremblantes, il se laissa tomber dans un fauteuil. À ses pieds était sa veste déchirée. Devant lui se tenait son chien blessé. Un voisin arriva, qui surprit le notaire dans cet état de frayeur et d'atonie. « Vous savez la nouvelle ?» lui dit le voisin. « Quoi ? Qu'y a-t-il encore ?» demanda Vergeot d'une voix faible. « Mademoiselle Sylvia Lupin a disparu. Une belle fille que nous appelions la druidesse, » ajouta le voisin en s'adressant à Ernest. « Oui, oui, la louve a été tuée, » dit Vergeot, enlevant les yeux et les mains au ciel. Le voisin étonné demanda des explications qu'on s'empressa de lui donner. Dès le lendemain, la chose était publique à Montfort. Toute la ville fut persuadée que mademoiselle Sylvia Lupin s'était changée en louve pour suivre dans la forêt un sorcier, son amant, et qu'elle avait été tuée par le capitaine de louveterie. Le notaire Vergeot avait vu le fait de ses yeux, et il avait même tiré un coup de fusil sur les deux amants. Vergeot le racontait à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il montrait à tous sa veste déchirée et son chien blessé. Si l'on nous demande comment de pareilles absurdités pouvaient trouver créance à l'époque où nous sommes, nous répondrons que les faits les plus absurdes sont ceux qu'admettent le plus volontiers les esprits superstitieux, et que les habitants de Montfort ne sont pas encore revenus de leur vieille croyance aux merveilles de la forêt de Brécilien. Ce n'est pas à côté du tombeau de Merlin qu'on nie l'existence des enchanteurs et le pouvoir des sorciers. D'ailleurs, mademoiselle Sylvia avait disparu, et monsieur et madame Lupin ne tardèrent pas à quitter la ville pour aller, le diable seul savait où, car aucun habitant de Montfort ne pouvait le dire. Enfin, M. Vergeot, un homme grave, un des notables de l'endroit, racontait ce qu'il avait vu de ses propres yeux, et pénétré d'horreur et de crainte, il n'avait pas hésité à rompre un mariage avantageux. Ernest Simoneau vendit son bien, prit des traites sur Paris, remercia cordialement son notaire, et lui dit au moment de le quitter, « Mon cher Monsieur Vergeot, ne pensez plus à mademoiselle Lupin, louve ou non louve, et si vous voulez vous marier, venez à Paris, je vous trouverai une femme douce comme un mouton. » Il monta ensuite en diligence, et s'enveloppant dans son manteau, il se fourra dans un coin pour se livrer à ses réflexions. Que croire? Que penser? D'un côté, M. Vergeot était incapable de mentir. De l'autre, c'était un homme d'un esprit sain, et dont l'intelligence était au niveau de sa profession. Au diable, dit-il enfin, les druidesses, qui en savent aussi long que l'enchanteur Merlin, et qui se transforment en louve pour courir les bois. Et il se mit à penser à mademoiselle Olympe, jeune ouvrière en lingerie qu'il aimait beaucoup, et à laquelle, grâce à la succession de son oncle, il allait acheter un beau châle ternaux, ou un mantelet de soie garni de dentelles. Ce fut dans ces dispositions qu'il arriva à Paris. Mademoiselle Olympe ne se souciait ni d'un châle ni d'un mantelet, elle avait envie d'un manchon. M. Ernest mit donc en quête de l'objet souhaité, il s'achemina vers cette partie de la rue Saint-Honoré où sont établis les fourreurs. Après avoir passé avec assez d'indifférence devant le roi de Suède, devant le roi de Danemark et autres souverains porteurs de superbes fourrures, il s'arrêta devant la neuve devanture d'un magasin et lut sur l'enseigne à l'enchanteur Merlin. « Oh oh ! » dit-il. « Ce vieux sorcier vend des fourrures à Paris. Allons lui acheter un manchon. » Il fut reçu par un beau jeune homme à l'œil noir, à la chevelure d'ébène, qui lui demanda poliment ce qu'il désirait. « Un manchon. Vous allez être servi, monsieur. Sylvia, fais voir les manchons à monsieur. »«
Sylvia Lupin, la druidesse ?» s'écria involontairement Ernest.
« Elle-même, monsieur. » Une jeune femme se présenta, grande, bien faite, le port d'une reine, l'œil bleu, le regard doux, la chevelure blonde et soyeuse, une Velléda de magasin, qu'on eût prise pour la Velléda de Dor, si on l'eût rencontrée dans les forêts de l'Armorique.
« La louve de M. Vergeot tuée par le capitaine de louveterie ?»
M. Gorget, tel était le nom du marchand fourreur, se permit un éclat de rire un peu bruyant, et Mme Georget, née Sylvia Lupin, fit un petit sourire dédaigneux, car comme les filles des Gaules, Sylvia avait le sourire plein de grâce, mais un peu dédaigneux.
« Ah, ce Vergeot nous a fait grand-peur, » dit M. Gorget.
« Et vous le lui avez bien rendu, » répondit Ernest.
« Nous avons été bien imprudents, » ajouta Mme Georget d'une voix douce.
« Au nom du ciel, » dit Ernest, « comment vous êtes-vous métamorphosé en loup pour enlever madame à mon notaire ?»«
Avouez, monsieur, » dit le marchand en regardant sa femme avec amour, « que si la chose était possible, Sylvia en vaudrait bien la peine. »«
Sans nul doute, mais... »
« Permettez, » reprit le marchand, « je suis de Montfort-sur-Meux. J'aime Sylvia depuis l'enfance, et de son côté, tout enfant, elle m'aimait déjà. J'ai demandé sa main il y a 3 mois, et M. Lupin aurait consenti à notre mariage lorsque votre notaire Vergeot est venu se jeter au travers de nos amours. Et M. Vergeot est riche, ou du moins, il a 30 000 francs de plus que moi. Et M. Lupin pensait qu'une 30 000 francs pesait plus que l'amour de 2 jeunes gens. M. Vergeot l'a emporté sur moi, son mariage était arrêté, le contrat dressé.
« Je le sais, » dit Ernest.
« Alors, » continua M. Georget, « j'ai loué une chaise de poste. Le froid était aigu, j'ai fait comme les héros d'Homère. J'ai jeté sur mes épaules une peau de loup, qui fera plus tard un superbe tapis de pied, et je suis parti pour Montfort. Sylvia était prévenue. Elle s'est échappée de chez elle, recouverte d'un plaid gris, dont le capuchon garantissait sa figure et sa tête du froid, et qu'elle tient d'un mien cousin qui, l'année dernière, a fait un voyage à Édimbourg. Ainsi couverte, elle m'a rejoint dans la forêt, parce que ma chaise de poste m'attendait dans une des avenues du bois. Nous nous sommes assis sur l'herbe, près d'un grand arbre, et nous nous sommes débarrassés, moi, de ma peau de loup, Sylvia, de son plaid, pour causer à l'aise et prendre nos dernières résolutions. Je venais d'enlever celle que j'aimais à M. Vergeot. Maintenant que Delou avait effrayé M. Vergeot et les forcé à se réfugier sur un arbre, rien de plus vrai. Hélas, les loups infestaient les environs de Montfort. Qu'une fois sur son arbre, M. Vergeot ait jeté ses regards autour de lui et qu'il nous ait vus nous dépouiller de nos vêtements d'emprunt, cela est naturel puisque cela est vrai. Le pauvre homme, dans sa frayeur, nous a pris pour les loups qui le poursuivaient. Et les superstitions de son enfance, les superstitions locales, monsieur, lui sont revenus à la mémoire.
« Je le crois bien, » dit Ernest. « Vergeot connaît un petit garçon qui se change en lézard. »«
Et il nous a tiré un coup de fusil, » reprit M. Georget. « Il est ensuite descendu de son arbre et j'ai vu les 2 loups revenir sur lui. J'allais m'élancer à son secours lorsque j'ai reconnu qu'il était sain et sauf. Les loups ont seulement étranglé son chien. »«
Azor n'est pas mort, » s'empressa de dire Ernest.
« Tant mieux, » reprit Georget. « C'est un chien de bonne race. » Quoiqu'il ne soit pas brave tous les jours.
C'est ce coup de fusil, poursuivit-il, qui a décidé Sylvia à me suivre. Elle n'a pas voulu revoir un homme qui a failli me tuer parce qu'il me prenait pour un loup, et nous sommes venus nous marier à Paris.
Et M. Lupin ? Demanda Ernest.
Mon beau-père a commencé par s'emporter contre sa fille et contre moi, mais la lettre de M. Vergeot l'a calmé, et il s'est rendu à Paris avec sa femme, non pour nous séparer, mais pour nous unir. Il est chez moi, et il y passera 2 ou 3 mois.
Monsieur Ernest acheta son manchon, et il quitta le magasin de l'enchanteur Merlin tout triste et déconfit. Il avait regret à cette belle histoire,
d'une belle fille qui se changeait en louve pour suivre un grand loup, son amant. Ainsi nous sommes. Nous nous attachons plutôt à une erreur qui nous étonne et nous captive qu'à la vérité simple et unie qui nous fait voir les choses telles qu'elles sont. Le notaire Vergeot est plus heureux que son client Ernest. Il croit aux lycanthropes et à la lycanthropie. Il est vrai que cette croyance lui coûte une jolie femme, mais Mademoiselle Sylvia ne l'aimait pas, et tout est pour le mieux. Ainsi s'achève Les loups de Montfort de Marie Écart.